Secoue ton taf, le podcast du dimanche qui secoue les relations au travail.
Non, la relation au travail.
Mais non, les relations au travail.
Mais non, mais c'est pas ce qu'on avait dit.
Eh ben, ça commence bien.
Je suis Aurélie Mazière de l'agence ERA, je suis coach certifiée et formatrice spécialisée en management et intelligence collective.
Je suis Marion Moreau de l'agence ERA, je suis une ancienne prof de français, aujourd'hui formatrice spécialisée en communication écrite et orale.
Un dimanche sur deux, nous viendrons secouer votre vie professionnelle.
Quel que soit votre environnement de travail, nous et nos invités vous partagerons nos expériences, nos tentatives
pour créer le nouveau monde du travail à l'écoute de tous et toutes. Bonjour à tous et toutes, nous en sommes à l'épisode 11 de Secoue ton taf et nous avons décidé aujourd'hui de vous parler du bilan de compétences.
Effectivement, vous êtes nombreux et nombreuses à nous demander, lorsque nous vous croisons ici ou là, ce qu'est exactement un bilan de compétences et à qui il s'adresse. Nous vous donnons toutes les réponses dans cet épisode.
Oui, on vous dit tout sur cet accompagnement, mais vous pourrez aussi poser vos questions en commentaire de cet épisode. En définition, nous vous donnerons celle du site travail-emploi.gouv. Ici, vous trouvez que le bilan de compétences permet d'analyser ses compétences professionnelles et personnelles, ses aptitudes et ses motivations en appui d'un projet d'évolution professionnelle et, le cas échéant, de formation. Le bilan de compétences est encadré par le Code du travail.
Cette définition synthétise assez bien la proposition offerte. Et souvent, vous nous demandez si vous pourriez vous aussi faire un bilan de compétences, si ça s'adresse à vous, si c'est le moment pour vous. Nous allons essayer de vous répondre. Un bilan de compétences s'adresse à n'importe quel adulte qui a travaillé ou qui travaille, quel que soit son âge. Peu importe votre statut, tout le monde y a droit.
Oui, que vous soyez salarié du public ou du privé, cadre, dirigeante ou dirigeant, demandeur, demandeuse d'emploi, que vous ayez 25 ans ou 55 ou même plus, vous pouvez en bénéficier. Il faut juste que vous ayez travaillé pendant 5 ans. Ce qui peut changer, en fonction de votre situation, c'est le financement possible, mais nous y reviendrons. Souvent, le bilan de compétences est adapté lorsque vous commencez à vous poser des questions sur votre vie professionnelle.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner.
Voici les cas que nous rencontrons le plus souvent.
Nous recevons souvent des personnes qui sont en poste, mais qui se posent des questions de sens, des questions de fond sur leurs envies, leur avenir, qui envisagent peut-être de changer, mais qui ne savent pas vers quelle voie aller, qui n'osent pas, qui ont peur parfois. Et il faut dire que c'est la majorité de nos clients et de nos clientes qui sont dans cette situation.
Nous avons aussi des personnes qui ne peuvent plus rester sur leur poste ou dans leur emploi pour des raisons de santé, qui sont épuisées ou qui ont des problèmes physiques et ont besoin de se réorienter.
Et nous pouvons aussi avoir tout simplement des personnes qui souhaitent faire un point de carrière, qui n'ont pas spécialement envie de changer, mais qui ont envie d'un œil extérieur sur leur situation pour se réassurer ou avoir une vision différente et plus précise de leur vie professionnelle. En termes d'âge, nous avons une majorité de quarantenaires. Je ne sais pas s'il s'agit de la fameuse crise de la quarantaine, mais en tout cas, c'est en principe à peu près la moitié de notre vie professionnelle, et c'est assez logiquement le moment où l'on se pose quelques questions de fond.
Ce qui est sûr, c'est qu'il faut vous sentir prêt ou prête, parce que cet accompagnement peut être assez impactant. Nous allons questionner pas mal de choses et d'aspects de votre vie, de votre personnalité notamment, mais nous y reviendrons tout à l'heure.
Oui, faire un bilan en début de carrière peut s'avérer très intéressant aussi pour se projeter dans un plan de carrière ou réaxer une orientation professionnelle.
Et puis en fin de carrière, l'âge de la retraite étant de plus en plus tard, il peut être tout aussi pertinent pour réfléchir à sa dernière décennie de travail par exemple. Parce que 10 ans, ça peut être long quand on s'ennuie ou quand on se sent mal au travail. Ça peut être aussi l'occasion de sécuriser leur évolution professionnelle ou de se rassurer sur ses compétences et aptitudes.
Vous pouvez faire un bilan plusieurs fois dans une carrière. Tous les 5 ans, plus exactement, pas moins. Riche de notre expérience de consultante en bilan de compétences, ce que nous observons, c'est qu'il est vraiment le déclenchement d'un nouveau départ. Il y a souvent un avant et un après bilan de compétences.
Comment ça va ? Comme un lundi, je sais pas ce que j'ai, je peux pas travailler. Un petit café, allez, c'est parti, si c'est permis, c'est vendredi.
Évidemment, la crise sanitaire a fait connaître un énorme boom aux demandes qui ont augmenté en 2021 de plus de 60%.
Selon une récente étude menée par l'IFOP pour le cabinet Orient Action sur les intentions de reconversion professionnelle des Français, seuls 44% estiment exercer un métier en adéquation avec leurs études supérieures et 87% pourraient être incités à changer de métier. Fatigué,
fatigué. Oui, rien d'étonnant à ça. Le contexte socio-économique, climatique, sanitaire, géopolitique est tel que les humains et humaines que nous sommes, nous nous questionnons naturellement sur le sens de nos vies, sur notre travail, nos équilibres de vie, sur nos valeurs et aussi tout simplement sur le plaisir que l'on a à aller travailler.
Que penses-tu, Aurélie, de revenir quelques minutes sur une des théories de la motivation pour mieux expliquer ce qui se passe aujourd'hui ?
Oui, effectivement, c'est assez éclairant. Moi, j'aime bien celle de Ryan et Deci. Elle n'est pas récente puisqu'elle date de 1985, mais elle est toujours d'actualité, plus que jamais d'ailleurs.
Déjà, la motivation, c'est l'énergie qui nous pousse à agir, à nous mettre en action, à faire les choses avec plus ou moins d'envie, plus ou moins longtemps.
Dans leur théorie, Ryan et Deci expliquent les différents degrés de motivation que l'on peut ressentir et les décrivent en 6 forces, de la moindre énergie à la plus grande énergie, en fonction de la façon dont nous la régulons.
Tout d'abord, nous avons la motivation, avec un grand A, qui représente l'absence totale de motivation. Ici, la personne ne s'engage pas, elle ne se met pas en action, ou en tout cas, elle évite le plus souvent de le faire.
Ensuite, nous avons le champ de la motivation qu'on appelle extrinsèque, avec une mise en action, donc il y a davantage d'énergie et de motivation, mais ça reste quand même assez faible, en termes d'intensité, de régularité et de temps. Extrinsèque signifie que la motivation vient de l'extérieur. Le premier stade s'appelle la régulation externe. Ici, soit on se met en action pour une récompense, un salaire, une prime, un compliment par exemple, soit par méfiance d'une sanction, un avertissement, des reproches, une rupture de contrat par exemple. Effectivement, c'est motivant, mais on a pu observer que la mise en action était non seulement peu intense, mais en plus très courte. L'engagement est faible, mais en plus, dès que la récompense est passée, la motivation baisse encore.
Toujours dans le champ de la motivation extrinsèque, on a ensuite un degré de motivation légèrement supérieur qu'on appelle régulation introjectée. Ici, c'est la personne elle-même qui s'envoie des récompenses ou des punitions. C'est le cas notamment lorsqu'on fait les choses pour ne pas se sentir coupable de ne pas les avoir faites. C'est le cas des gens qui disent « je fais cette activité parce que je me sentirais mal de ne pas le faire par rapport à mes collègues ». C'est légèrement plus motivant que tout à l'heure, mais franchement, c'est encore un faible engagement.
Passons maintenant à un degré plus fort de motivation, la motivation que Ryan et Deci appelaient intrinsèque. Là encore, il y a plusieurs stades. La première, c'est la régulation identifiée parce que la personne s'identifie à l'activité pour des raisons d'utilité. Elle fait les choses parce qu'elles servent à quelque chose. C'est déjà un peu plus puissant en termes de motivation. Et ensuite, il y a la régulation intégrée. Ce que fait la personne correspond à une certaine vision du travail pour elle. Ça colle avec ses valeurs, avec le sens qu'elle a envie de donner à son activité professionnelle. Si déjà les personnes sont à ce stade, elles s'engagent largement dans leur travail et elles se sentent souvent à leur place et satisfaites.
Et pour finir, il y a le stade de la régulation autodéterminée. Ici, la personne travaille juste pour le plaisir. L'engagement ne vient que de l'individu, intrinsèquement. Il n'attend aucune récompense externe, il n'en a pas besoin. C'est le summum de la motivation. Si vous la ressentez, ne changez rien. Motivé, motivé, il faut rester motivé. Motivé, motivé, il faut se motiver. Motivé, motivé, soyons motivés. Motivé, 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 motivé. Bon, évidemment, le salaire reste important pour la plupart d'entre nous et nous ne sommes pas en train de dire qu'il ne compte pas. Mais lorsqu'il devient le seul facteur qui nous pousse à aller travailler, sans aucun autre, nous pouvons ressentir un mal-être ou une baisse forte d'énergie.
Donc, dès que vous vous sentez prêt ou prête, vous pouvez commencer ce fameux bilan qui va se dérouler soit en présentiel, soit à distance, pendant une dizaine de rendez-vous de 1h30 à 2h en moyenne. Ce sont des rendez-vous individuels et les accompagnements sont toujours individualisés en fonction de votre contexte, de votre parcours, de vos attentes, de vos objectifs, mais aussi de la façon dont nous avançons ensemble.
La loi détermine les grandes étapes. Pour commencer, nous vous recevons lors d'un premier entretien durant lequel nous écoutons votre situation. Nous faisons connaissance, nous programmons avec vous le déroulé des séances et nous fixons des objectifs.
Du coup, vous l'aurez compris, nous ne pouvons pas vous décrire exactement le déroulé précis, puisqu'il est toujours différent, mais nous pouvons tout de même vous expliquer les grandes lignes.
Ensuite, nous allons passer à ce qu'on appelle la phase d'exploration. Elle est assez longue parce que nous allons creuser de manière assez approfondie plusieurs aspects de votre vie et de vous. Durant cette phase, nous allons travailler avec vous et faire votre introspection. Nous allons passer en revue votre profil Comcolors. Vous repartez systématiquement avec votre bilan. Pour mieux comprendre, on vous renvoie à l'épisode 1 de ce podcast.
Oui, et on va aussi parler de vos besoins, de vos valeurs, de vos intérêts professionnels, de votre équilibre de vie, de la façon dont vous gérez votre temps, de vos points forts et faibles, de vos talents. Et là, on vous ramène à l'épisode 3. En bref, vous allez repartir avec une bien meilleure connaissance de vous-même. Ça peut être assez impactant, d'ailleurs, comme découverte en fonction de notre stade de travail sur nous-mêmes et de l'image que l'on a de nous.
Pour ça, on va utiliser de nombreux outils que l'on a en notre possession. Des tests, des cartes, des jeux, de manière à rendre tout ça ludique. Car oui, on peut être efficace et amusant. À l'agence ERA, on estime que cette étape de réflexion introspective est majeure et ne doit vraiment pas être prise à la légère. Ce sont les bases du bilan de compétences que l'on pose là, et on se rend compte que de nombreuses personnes, et c'est bien logique, ne se sont jamais posées pour se questionner vraiment sur ces sujets. C'est aussi une de nos particularités de passer un peu de temps à éclairer la personne sur ce qu'elle est avant de travailler sur ce qu'elle fait ou sur ce qu'elle sait faire.
Ensuite, on passe toujours dans la phase d'exploration à une analyse des compétences, vraiment en reprenant le parcours de la personne. On recherche les compétences en termes de savoir, de savoir-faire, de savoir-être, acquises durant la période scolaire, mais aussi, bien sûr, durant les expériences professionnelles et même extra-professionnelles. Cette dernière étape n'est vraiment pas à prendre à la légère. Les activités extra-professionnelles sont aussi source d'apprentissage et donc de développement de compétences. Il est nécessaire de ne pas s'arrêter au travail.
Ici, on va notamment travailler sur les compétences transversales, c'est-à-dire celles qui vont pouvoir être réutilisées dans un autre projet professionnel, potentiellement. Par exemple, si vous êtes infirmier ou infirmière, le savoir-faire purement technique va difficilement être réutilisé dans un autre métier. C'est un peu difficile d'aller faire des prises de sang ailleurs que dans le métier d'infirmière ou d'infirmier. Mais par contre, la relation d'aide, ou bien les notions d'hygiène ou d'encadrement d'une équipe, vont pouvoir être réutilisées ailleurs dans un autre métier.
Puis, lorsque cette analyse des compétences est terminée, on va croiser les informations analysées et commencer à émettre des idées de projets professionnels ou de pistes pour la suite.
Oui, en réalité, le plus souvent, les idées émergent tranquillement au fur et à mesure du bilan.
Ici, nous avons aussi des logiciels qui vont nous aider, une fois que nous avons questionné les compétences, grâce à l'intelligence artificielle, à nous proposer des pistes. Ce n'est pas magique et c'est forcément à remettre en question en fonction des objectifs, des contextes, des contraintes de la personne, mais c'est souvent assez éclairant.
Et une fois les idées ou les pistes posées, nous allons les étudier, les comparer, enquêter sur les métiers, et on vous guide pour ça bien sûr. Cette enquête va aider à construire une idée du métier la plus proche de la réalité, et c'est important, car nous avons tous et toutes des idées préconçues de certaines activités en fonction de ce que nous en voyons, de ce qu'on nous en a dit, et souvent, cette vision s'avère erronée. Avant de partir donc, dans des actions concrètes de reconversion par exemple, cette connaissance doit être la meilleure possible.
Quelquefois, bien sûr, il arrive aussi qu'à ce stade, on se rende compte qu'aucune reconversion complexe n'est nécessaire, qu'il va s'agir peut-être de réaxer des missions, de travailler sur un équilibre vie pro-vie perso. Tout est possible à ce stade. Une fois ces enquêtes métiers réalisées, des choix vont être faits par la personne, et notre rôle sera alors de l'aider à faire ses choix au regard de ses ressources personnelles, sociales, matérielles, de ses contraintes, de son contexte. On peut aussi rechercher avec elle des ressources qui ne seraient pas encore présentes, des contacts, des aides diverses et variées.
Dans tous les cas, nous essayons d'amener, avec l'accord toujours de la personne, à une mise en action, avant la fin du bilan de compétences, de manière à rendre les choses possibles pour le cerveau, à lui montrer que des choses existent et ainsi lever des résistances naturelles. Le cerveau préfère toujours rester dans une zone connue, même si ce n'est pas la plus adaptée pour lui. Au moins, il connaît, il se sent plus en sécurité que dans un avenir qu'il contrôle mal. Ça génère des peurs, des résistances. En se mettant en action rapidement, on lui démontre qu'on est capable, que d'autres l'ont fait et que c'est possible. Ça augmente de fait la motivation.
On termine le bilan par l'élaboration d'un plan d'action qui permettra d'atteindre les objectifs et par la remise d'une synthèse qui reprendra les éléments qu'on a travaillés ensemble depuis le début du bilan. Cette synthèse est destinée exclusivement à la personne, nous ne la partageons avec aucune autre personne sauf demande écrite de la part de la personne accompagnée.
Ensuite, nous proposons toujours un rendez-vous à 6 mois qui permet de faire un point, de reprendre le plan d'action et de regarder ensemble les choses réalisées, non réalisées, de voir si des actions sont à repositionner. C'est un temps d'échange privilégié pour les personnes.
Un bilan de compétences dure 24 heures maximum. Nous avons l'habitude de proposer en moyenne un rendez-vous par semaine de manière à être dans un rythme dynamique et motivant. Parfois, pour les types verts notamment, qui ont besoin de temps particulièrement, nous proposons d'espacer légèrement les séances. Ça peut être plus confortable pour eux ou pour elles.
En termes de financement, pour les salariés du privé, vous pouvez utiliser votre compte personnel de formation. Mais les employeurs ou les employeuses peuvent prendre en charge le bilan de compétences dans le cadre du plan de développement des compétences. Votre employeur ou votre employeuse n'a pas à donner son accord si vous utilisez votre CPF. Mais si vous souhaitez prendre vos rendez-vous sur votre temps de travail, bien entendu, il ou elle devra donner son avis.
Pour les salariés du public, sur le papier, vous pouvez bénéficier du CPF également. Dans la pratique, c'est un peu plus compliqué et il vous faudra souvent l'accord de votre employeur. Chaque cas est particulier.
Pôle emploi finance aussi les bilans pour les demandeurs d'emploi, les demandeuses d'emploi, et il est aussi toujours possible de le financer via vos fonds personnels. Dans tous les cas, nous vous accompagnons dans les démarches et un premier rendez-vous pour nous rencontrer vous sera systématiquement proposé. C'est important pour nous et pour vous, pour faire connaissance, pour vous expliquer la démarche, élaborer votre programme.
Un bilan de compétences change souvent beaucoup de choses dans une vie professionnelle et si vous vous sentez prêt ou prête et que vous avez besoin de renseignements, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Merci pour votre écoute et si ce podcast vous plaît, partagez-le le plus possible autour de vous.
Si vous avez envie, vous aussi, de secouer votre taf, venez co-construire avec nous votre nouveau monde du travail.
Retrouvez nos propositions d'accompagnement en intelligence collective, management, communication et bilan de compétences à l'adresse www.agencera.fr et sur LinkedIn et Facebook.